Moi, je suis un peu du chasseur de gassage. J'ai réfléchi totalement ce qui
se passe.
Bonjour à tous, merci d'être ensemble avec nous pour près de 57 minutes d'échange et de partage dans parole aux auditeurs. Les forces spéciales du Rwanda et de la RDC déployées depuis février 2011 pour la traque des forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR se sont retirées vendredi 31 août des villages Katsuguru, Kiseguru et Kaunga dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu. Selon Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, le nombre de militaires ne pouvait pas dépasser 50. Il s'agit à qui poursuivi des officiers rwandais qui participaient à un nombre similaire de leurs homologues congolais à la surveillance conjointe de la frontière commune de deux pays. Il a ajouté qu'il s'agissait d'officiers des renseignements qui travaillaient à la surveillance de la frontière commune entre le Rwanda et la RDC. Rappelons que les deux pays avaient lancé depuis début 2009 l'opération Umoja Wetu pour traquer le FDLR. Quel serait pour vous l'impact de ces retraits dans la lutte contre le FDLR à l'est de la RDC? Nous en parlons avec Jean-Claude Chilumbaï, chef des travaux et doctorant en relations internationales à l'université de Kinshasa. J.R. Lungembo, Tikim Poutou, Jean-Noël Mokondo sont à la réalisation de cette émission supervisée par Ben Kabamba Piro et la Méji pour la présence. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, heure de Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient, de lundi à vendredi de 11 à 12h, et mercredi de 10h, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et notre numéro d'appel pour intervenir en direct apporte votre contribution dans cette émission consacrée à lutte contre l'insécurité à l'est de la RDC. Appelez-nous au 081 890 43 39 081 890 43 39. Nous avons déjà en ligne notre Jean-Paul Lumbulumbu qui est à Goma et Jules qui est à Congolo. Mais avant de pouvoir accorder la parole à nos intervenants qui sont sur les antennes, nous allons vous accorder la parole, Monsieur Jean-Claude Chilumbaï. Nous parlons de la lutte contre l'insécurité dans les provinces de l'Est de la RDC. Nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes dans beaucoup de localités. Il y a des groupes de forces négatives, comme on appelle, mais nous nous intéressons à l'avenir de la lutte contre les FDLR dans ces localités. On sait que les deux pays, le Rwanda et la RDC, s'étaient mis d'accord pour pouvoir les traquer. Bon, on sait qu'il y a eu aussi, comme l'a confirmé le porte-parole du gouvernement, le retrait des forces qui étaient chargées de surveiller la frontière, n'est-ce pas, d'une manière conjointe entre les deux pays, mais parce que nous voulons regarder dans l'avenir aujourd'hui la question des FDLR pour qu'on y mette fin, pour que les populations qui vivent dans ces zones où se trouvent les FDLR puissent être tranquilles. Pouvons-nous dire aujourd'hui que c'est une question internationale? Ça veut dire qu'il va au-delà de la RDC.
Je crois oui, c'est même l'erreur que nous avons commise en appréciant cette question bien au départ. Nous avions pensé que l'insécurité créée par les FDLR ne concernait que les deux pays, soit le Rwanda et la RDC. Et pourtant, vous dites bien force négative, le régime juridique à appliquer à des forces négatives découle du principe logique de droit, Judex de Transcendance, out de Béré. Ça signifie tout simplement que l'obligation que nous avions, nous, par exemple, Congo, à l'époque, de poursuivre ou d'extrader ces gens dont le Rwanda s'est réclamé comme les soi-puissants, n'était pas qu'une obligation du Congo, mais celle de tous les États, de toute la communauté internationale qui devrait nous assister dans le cas où il a été établi clairement que le Congo avait failli à sa mission. Nous pouvions bénéficier de cette aide. Mais pas forcément celle du Rwanda, je crois que il était de pas mal indiqué de croire que ce pays qui à peine partait qui, curieusement, de notre pays après une guerre d'agression, pouvait se substituer tout de suite à un agent de maintien d'ordre.
Oui, alors, ça veut dire qu'il faut examiner cette question au-delà de deux pays, mais actuellement, il y a un débat autour d'une force neutre qui doit être définie, qui peut être déployée le long de frontières communes, qui peut peut-être concerner d'autres pays africains. Est-ce qu'on peut aller au-delà même des pays de la sous-région, voir aussi quelle peut être l'implication des autres forces de la communauté internationale, au-delà bien sûr de la force de maintien de la paix à la MONUSCO que nous avons déjà sur le sol congolais?
Je ne voudrais pas que la même IOPI caractérise notre gouvernement. La négociation en cours sur la question relative au déploiement de cette force internationale neutre me semble faiblesse, parce que je m'imagine fort bien que la présence de la mission onusienne déjà ici au Congo suffirait pour continuer de négocier dans ce cadre et voir comment l'ONU, qui a déjà déployé une mission, devrait continuer d'étendre les possibilités de maintien de la paix et surtout de la sécurisation de ce pays. Mm-hmm. En ce contexte aussi où l'on imagine que le front ouvert par le FDLR n'est pas une guerre classique, parce qu'ils n'ont pas pris officiellement les armes, ils ne s'identifient pas clairement, les Nations Unies, qui ont déjà ce mandat de maintien ou de sécurisation de la RDC, ont déjà réussi faire venir du Conseil de sécurité. Ça signifie que la MONUSCO peut déjà jouer ce rôle. Il n'est pas question à ce jour de continuer d'imaginer. Il a été dit clairement, parce que tous ces États de l'Est du pays sont soupçonnés dans l'agression du Congo. Il n'y a pas que le Rwanda, je dis, il y a aussi l'Ouganda, il y a le Burundi. La Tanzanie n'est pas totalement innocente de ce qui se passe au Congo. Donc, c'est d'imaginer encore des troupes qui viendraient de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Burundi, tous ces États qui auront préféré que le Congo devienne ce qu'il est devenu une foire de la sous-région, c'est encore un tricail du processus de maintien de la paix, un tricail du processus de sécurisation de l'Est.
Mais là, il y a la question des consensus qui se pose. Voilà, nous allons écouter Maître Jean-Paul Mbulumbu, Jules qui est à Congolo, et Marcel qui est à Kisangani. On commence avec vous. Maître, vous êtes avec nous, bonjour.
Et bonjour.
Nous regardons un peu plus dans l'avenir, parce que le problème, il y a eu plusieurs opérations militaires dans la lutte contre les phénomènes FDLR, mais aujourd'hui on regarde dans l'avenir, on sait aussi qu'il y a eu ce problème de surveillance des frontières entre les deux pays, des forces qui se sont retirées dans les localités où ce mécanisme était mis en place. Mais alors comment envisager aujourd'hui la lutte contre le FDLR, vous qui résidez dans ces zones?
Ben, écoutez, je pense que la question des FDLR est une question qui actuellement, à mon avis, essaie de dépasser un peu le gouvernement de la République démocratique du Congo. Je suis en train de constater que le peuple congolais, et particulièrement le peuple de l'Est de la République démocratique du Congo, est aujourd'hui victime de l'hospitalité qu'il a accordée aux FDLR, qui à l'époque étaient entrés avec l'appui de la communauté internationale. Et il est inadmissible que jusqu'à cette heure ici, le peuple du Nord Kivu, du Sud Kivu, continue à être victime de cette hospitalité. Je pense que ça en est des trop. Il faut que le gouvernement s'assume, il faut que la communauté internationale qui a appuyé l'entrée de FDLR en air de Congo puisse également tenir compte de la misère dans laquelle vit actuellement le peuple congolais. Et à ce qui concerne le contrôle de ces forces, je vis à Goma, pas plus tard qu'il y a deux ans, nous avons vu officiellement les forces rwandaises entrer en République démocratique du Congo, venir constituer une force conjointe avec le FARDC, un motif d'aller attaquer les FDLR dans les forêts de Massissi, de Rutshuru, de Lubero, un peu partout. Et je suis très sûr que les Congolais qui me suivent en ce moment, ainsi que les Congolaises, savent très bien que c'est l'entrée de ces troupes rwandaises en République démocratique du Congo qui constitue la goutte qui a fait déborder la vase entre les relations dans les relations entre le président Joseph Kabila et l'ancien président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, qui estimait à l'époque qu'il était inconcevable que des troupes étrangères puissent venir opérer sur le sol congolais sans que la représentation nationale soit au courant. Ça veut dire qu'au niveau du Rwanda, ils ont déjà imaginé le mécanisme par lequel ils vont penser que c'était efficace de pouvoir traquer les FDLR. Ils sont entrés en mode d'opération conjointe avec les FARDC. Ils sont rentrés par la grande barrière. Nous les avons vus ici à Goma. ils sont rentrés par la barrière. Et le discours qu'ils ont laissé derrière eux, c'est de dire qu'au Congo, il n'y avait pas plus de 100 FDLR et que pour le reste, le Centre des armées de la République démocratique du Congo, le FARDC, c'est donc, devrait s'en charger. Pour dire que les Rwandais étaient supposés avoir déjà terminé cet alibi, ce prétexte qui est souvent soulevé pour envoyer des troupes en mer de Congo. Donc, aujourd'hui, le Rwanda, si on détend que le Rwanda continue à accuser encore la République démocratique du Congo de pouvoir maintenir sur son sol les FDLR, alors qu'au cours de l'opération conjointe qui a eu lieu en 2009, nous pensions que le Rwanda, conjointement avec le FARDC, avait utilisé tous les moyens qui étaient à sa disposition afin de pouvoir
mettre le Mboulou, mais au-delà des opérations militaires, pensez-vous qu'il y ait d'autres mécanismes qu'on peut aujourd'hui mettre en place pour résoudre le problème, la question FDLR et permettre à toutes ces populations qui vivent dans ces milieux-là de se sentir en sécurité? Y a-t-il aujourd'hui d'autres mécanismes qu'on peut mettre en place au-delà de tout ce qu'il y a comme opération militaire?
Moi, je pense qu'il y a des mécanismes au niveau régional, tout au niveau national. On peut imaginer des mécanismes. Je prends d'abord au niveau régional. Au niveau régional, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle la Conférence internationale sur le pays des Grands Lacs, et qui a un impact sur la sécurité, la paix et le développement dans la région des Grands Lacs, parce que dans lesquels il y a des protocoles, par exemple, de non-agression. Je pense que si jamais les responsables ou les chefs d'État membres du pays des Grands Lacs pouvaient s'adonner à l'application stricte du pacte sur la sécurité et le développement, ça constituerait un premier mécanisme à travers lequel les pays pourraient s'entraider afin d'éradiquer le phénomène FDLR. Mais d'autre part, sur le plan interne, écoutez, la République démocratique du Congo ne doit pas continuer à être victime de cette hospitalité des FDLR. Je pense que le gouvernement de la République devrait s'assumer. Moi, je suis d'avis que les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont jamais été incapables de mettre fin au système FDLR. Seulement, le commandement de l'armée, la chaîne de commandement de l'armée est tellement infiltrée de telle sorte que même s'il faut planifier des opérations contre les FDLR, il y a toujours des trahisons ou des infiltrations. Et je pense qu'au niveau national, s'il y a moyen que le gouvernement puisse s'assumer, que le gouvernement puisse essayer de voir comment mettre sur pied une réforme réelle dans les services de sécurité, afin que nous puissions faire une armée capable, une armée dissuasive. Parce qu'à mon avis, pour chuter,
il y a beaucoup de gens sous le standard.
Il est inconcevable. Il est inconcevable que 2 ans après avoir pris le pouvoir au Rwanda, le président Paul Kagame soit à mesure de donner à Laurent Désiré Kabila une armée qui était capable de chasser Mobutu. Mais 11 ans après, le président Joseph Kabila est à la tête du pays. Nous n'avons pas encore une armée capable de neutraliser le phénomène FDLR. C'est la raison pour laquelle
vous souhaitez vraiment mettre Lumbulumbu qui est au-delà du fait de mettre en marche des mécanismes au niveau régional, l'application du pacte sur la non-agression, que les pays puissent mettre ensemble pour mettre fin à ce phénomène. Mais au-delà de tout, vous pensez qu'il y a aussi lieu de pouvoir réformer l'armée et mettre des moyens nécessaires pour permettre aux FARDC de pouvoir venir à bout du phénomène FDLR. Merci. De ce point de vue et de cette lecture de Goma. Au nord de vous, nous avons à Congolo. Jules, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et merci d'avoir accepté de m'accorder encore une fois la parole.
Vous avez suivi l'autre premier intervenant qui pense qu'il y a plusieurs chemins, que ce soit la réforme de l'armée, mais aussi le mécanisme au niveau de la sous-région. Tout cela mis ensemble, ça peut venir dans l'avenir, bien sûr, à mettre fin au phénomène FDLR. On vous écoute, Jules.
Oui, écoutez, M. Pierre, avant de pouvoir intervenir, j'allais vous proposer un sujet qui est à la prochaine occasion à la radio Okapi, un sujet parlant de la qualité de service que nous rendent les différentes maisons de communication qu'on trouve.
Oui, voilà, Jules, s'il vous plaît, Jules, bon, vous pouvez nous écrire souvent, vous pouvez nous écrire à la boîte PA@radiocapi.net pour nous faire votre proposition autour, n'est-ce pas, de la qualité des services de communication. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, vous avez suivi Radio Capi en a parlé, puis relayé l'information de la mise en demeure du ministre de Postes et fonds de communication qui a demandé aux maisons, aux sociétés de téléphonie cellulaire de pouvoir améliorer la qualité de leur travail. D'ailleurs, par l'autorité, on pourra revenir là-dessus. Merci pour cette proposition, mais c'est là aussi dans notre cadre. Mais revenons au sujet du jour, Gilles. Mais pour les autres auditeurs, quand vous avez besoin de nous proposer un sujet, vous avez notre boîte email, faites-le. Mais on vous écoute rapidement par rapport à la question du jour.
Ouais, merci grandement, je vais le faire. Et je pense et j'estime que la situation que la population du RD Congo est en train de traverser est le résultat du manque de transparence en matière de bonne gouvernance de la part de nos dirigeants actuels. Beaucoup de questions sont en train d'être posées par l'observateur, car les Rwandais disent qu'il est en train de retirer les militaires du sol congolais. Les militaires rwandais étaient au nombre de combien quand ils sont entrés ici au Congo? Avant d'entrer au Congo, ils se sont convenus quoi avec le gouvernement congolais. Normalement, c'est le gouvernement congolais qui devrait nous en parler, même s'il est ici actuellement. Et beaucoup de questions là-bas. On trouve que dans les endroits où se trouvaient les militaires de la force rwandaise, c'est là où on pourrait dénombrer beaucoup de cas de viols, de tueries, de vandalisme. C'est bien. À mon avis, c'est sûr que les Rwandais doivent à tout prix cesser de distraire les Congolais. Les mêmes militaires que Kigali prépare et tirer du Congo seront aussi envoyés à Rutshuru, à Runyoni et Kansenze pour renforcer les militaires rwandais qui se trouvent au nord Kivu, regroupés dans un mouvement communément appelé M-23.
Jules, au-delà de votre interview, en fait, malheureusement, Jules ne parvient pas à nous écouter pour le relancer et lui permettre de revenir à une proposition par rapport aux stellaires. Malheureusement, Jules, vous avez parlé du début à la fin, vous n'avez pas évoqué la problématique, n'est-ce pas, de stellaires. Ce qu'il faut faire pour mettre fin à cela, malheureusement, vous n'avez pas été en interactivité. Quand vous êtes sur les antennes, vous avez la possibilité d'écouter l'échange hein, pour ne pas occuper le temps et aller au-delà de ce que vous devez dire. Malheureusement, Jules, vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir vous exprimer au-delà de toutes les inquiétudes, toute la polémique autour des relations entre la RDC et le Rwanda, autour de la présence de militaires rwandais sur le sol congolais, pour la traque des FDLR, bien sûr, mais dans l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a encore des FDLR au Congo, qu'est-ce qu'il faut faire enfin pour mettre fin à cette question? Mais malheureusement, Jules n'a pas pu suivre l'interactivité pour revenir à ce qui a été demandé. Marcel, vous êtes à Kisangani en province orientale, bonjour.
Bonjour, JR, c'est Marcel Zuma à Kisangani.
Voilà, c'est Thiro aujourd'hui. Marcel, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes hein, autour de cette question de la relation entre la RDC et le Rwanda, mais quand nous regardons le volet FDLR aujourd'hui, parce que là nous préoccupe dans cette émission, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'avenir, que ce soit du côté congolais, que ce soit du côté du Rwanda, de la communauté internationale, pour enfin qu'on mette fin au phénomène FDLR? Quel est votre point de vue, Marcel?
Merci beaucoup, M. Thiro. Je voudrais d'abord, avant de commencer par la question posée par vous, relever quelques confusions qui émaillent le mécanisme du maintien de la paix et de la sécurité au niveau de la RDC ainsi qu'au niveau de la sous-région des Grands Lacs en général. Lesquelles confusions conduisent à ce que nous vivons aujourd'hui, s'agissant bien sûr des irrégularités de la part de la procédure à suivre et qui devrait en principe aboutir à des résultats meilleurs par nos dirigeants. Et quand je prends par exemple le président de la République qui doit nécessairement agir avec ses qualités, et cela en qualité du parent de la nation, il est bien précisé dans la Constitution à ses articles 165-166. Bien évidemment que quand un président de la République engage l'État dans ses décisions ou se ratifie des traités ou des accords internationaux avec les États, il doit nécessairement en informer le Parlement. Hein, chose que nous ne vivons pas dans notre gouvernance actuelle. Donc, nous avions pour la première fois le même acte qui avait entraîné le départ de Vital Kamerhe, comme l'a souligné le maître qui est intervenu avant, qui a ouvert le débat, et aujourd'hui nous sommes retombés dans le même système. On engage avec le Rwanda une négociation pour que les officiers rwandais de renseignement puissent venir au Congo. C'est là, dans le but de mettre hors d'état de nuire les forces négatives, et sans en informer le Parlement, ce qui est encore grave, qui est l'isolation même de la Constitution, alors que le président de la République doit nécessairement veiller au respect des textes. Et c'est là en matière des accords et traités internationaux. Et aujourd'hui, il est sans doute de dire qu'il est vrai que, d'après certaines opinions, ils pensent qu'il y a une complicité même au niveau national.
Oui, Jules, Marcel, au-delà de tout ce que vous avez expliqué sur le mécanisme juridique par rapport aux accords internationaux, mais en fait, nous ne faisons pas le débat sur la procédure à faire pour que les troupes étrangères viennent, mais nous faisons le débat sur le phénomène FDLR. Voilà un peu. Je sais que l'opinion aujourd'hui est très préoccupée, bien sûr, par toutes ces procédures, mais le problème qui est sur terrain aujourd'hui, c'est qu'il y a le mécanisme qu'il faudrait mettre en place pour lutter contre les FDLR, Marcel. Voilà un peu la grande préoccupation, parce que s'il y a présence des militaires, que ce soit des Congolais, de l'étranger sur le sol congolais, le point commun entre toutes les mécanismes, toutes les mesures, toutes les discussions, c'est les FDLR. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Au-delà de toutes ces considérations juridiques des articles, mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour mettre fin au phénomène FDLR, Marcel?
Merci beaucoup. Je crois que la solution, elle est simple. On ne peut jamais mettre fin au phénomène de FDLR sans passer par la réforme de notre propre armée, qui doit être une armée républicaine au service de la nation. Mais tant qu'on compte sous des forces étrangères, ce problème, nous le vivrons toujours. Et ils seront là avec nous. Ils continueront à loger avec l'existence de notre pays tant que nos ressources seront encore là. Donc, voilà. Il faut d'abord passer par la réforme de notre armée, il faut engager des dialogues nécessaires avec toutes les classes politiques et des forces vives de la République, pour qu'il y ait une transparence dans la gouvernance interne et vis-à-vis de ce qu'on veut faire avec le partenaire ou d'autres.
Merci Marcel, voilà. Au-delà du fait que vous avez évoqué le problème autour des mécanismes juridiques pour des accords, bien sûr, je rappelle encore que cela ne fait pas vraiment débat aujourd'hui, mais notre problème, c'est que tous ces accords ont pour finalité la traque des FDLR, mais et puis qu'il y ait accord ou pas, les FDLR continuent à exister sur le sol congolais. Et nous avons besoin de savoir, vous, auditeurs, ce que vous pensez pour mettre fin à cela. Plusieurs propositions, partant de maître Jean-Paul Lumbulumbu, des Jules, tous ceux qui ont pensé qu'il faut la réforme de l'armée, mais il faut aussi l'implication de la communauté internationale. Vous pensez qu'il faut réformer l'armée, mais il faut aussi un dialogue dans la transparence, dans tous les mécanismes qui doivent être définis. Arsène, vous êtes à Kikwit dans le Bandundu. Bonjour Arsène.
Bonjour monsieur.
Est-ce que pensez-vous vraiment que la question des FDLR peut se limiter tout simplement à la réforme de l'armée en RDC, ou faut-il aussi d'autres mécanismes au-delà de la RDC pour mettre fin à cette question?
Ok monsieur, le problème FDLR n'est qu'une marchandise. Le problème en soi, on peut faire la réforme, on peut faire tout ce qu'on peut faire, mais tant que le gouvernant ne fait pas confiance aux originaire de cette république qui est la République démocratique du Congo, nous allons toujours revenir au même point. Comment ça peut-il se faire que les gens que nous avons reçus chez nous pour les protéger contre le massacre, ces gens retournent contre nous, commencent à massacrer notre population, au même moment nos autorités essaient de prendre d'autres forces qui sont en train de nous massacrer encore sous prétexte de suivre le FDLR. Au même moment, nous avons une armée complètement désorganisée, trahie, et nous continuons sur la même ligne. Je crois que c'est grave, monsieur. Cette situation ne peut pas se limiter au niveau juridique ne peut pas se limiter au niveau de nos relations avec les pays voisins et avec la communauté internationale tout entière, tout entière plutôt, mais le problème doit être aussi résolu politiquement. Nous devons nous entendre. Aujourd'hui, nous avons un Parlement qui est la représentation du peuple. Bien que nous avons critiqué comment est arrivé les acteurs du Parlement là, mais ils sont là. Nous devons nous réunir. La société civile qui n'est pas dans le Parlement doit aussi rejoindre les acteurs politiques. Nous devons voir clair sur cette histoire. Sinon, c'est la trahison. C'est vraiment la trahison. Il faut vraiment maintenant trouver une solution. Cette solution ne peut se faire trouver que dans un dialogue. Il faut dire la vérité. Qui trahit le pays? Quelles sont les manigances qui sont en train de se faire pour enrichir quelques têtes ou pour garder quelques têtes au pouvoir? Il faut mettre ça au clair. Sinon, c'est la trahison au plus haut sommet de l'État. S'il vous plaît, monsieur, je n'ai pas honte de le dire parce que c'est ma nation.
Et là, vous pensez que s'il n'y a pas un dialogue franc et sincère, on ne peut pas résoudre le problème SDR. C'est ça votre point de vue, Arsène?
Mon point de vue est simple. Ce n'est qu'une marchandise. Ce n'est qu'une marchandise. Nous ne sommes pas bûches, les Congolais, nous ne sommes pas bourriques. C'est honteux. Moi, je ne peux pas accepter des histoires comme ça.
Monsieur. Merci. Voilà. Merci, Arsène. On sent que ça vous préoccupe comme ça préoccupe et tout le monde. Hein. Il y a plusieurs années que les phénomènes SDR existent sur le sol congolais, mais il faudrait des solutions. Vous pensez qu'au-delà de la réforme de l'armée, mais il faut aussi un dialogue, n'est-ce pas, entre toutes les forces de la RDC pour savoir qui fait quoi, quel mécanisme mettre en place, qu'est-ce qui doit être fait pour qu'enfin on puisse mettre fin à cette phénomène que vous considérez comme une marchandise. Nous allons écouter le dernier auditeur qui est à Kananga pour cette première série revenir dans ce studio. C'est Gabriel. Vous êtes avec nous, Gabriel. Bonjour.
Bonjour, Gilles, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Voilà, merci Gabriel, c'est Pierrot à la présentation aujourd'hui. On vous écoute, Gabriel.
Merci Pierrot, merci. Vous êtes revenu, bien au bord et tout.
Merci, merci beaucoup.
Bon. Je voudrais intervenir à ce niveau du débat pour dire que, en son temps, les autorités de notre pays avaient annoncé le départ de. Les militaires autour rwandais et FDLR, le 25 février 2009, il y avait même une cérémonie où les deux autorités militaires du Rwanda et du Congo étaient présentes. Aujourd'hui, on nous dit encore qu'il y a encore une partie des FDLR qui ont quitté le Congo. On ne comprend plus rien. Pourquoi les autorités congolaises sont-elles passées de la mutinerie à une agression sans pouvoir réformer le peuple congolais qui est affecté au plus haut niveau. Et aujourd'hui, on nous demande quel est le mécanisme par lequel nous pouvons passer pour pouvoir éliminer les FDLR au Congo. Il n'y a pas d'autre mécanisme. Il faudra d'abord qu'il y ait une cohésion nationale pour Congo. La cohésion appelle, disons, un dialogue. Si nous nous mettons tous en nous regardant justement aux yeux et en nous parlant la vérité, je pense que nous pouvons arriver à mettre hors d'état de nuire les FDLR. Parce que FDLR constitue aujourd'hui pour nous un fonds de commerce. Le Rwanda vient au Congo à cause des FDLR. Et nous, tout ce que nous devons faire pour faire chasser et traquer les FDLR, le Rwanda ne va pas nous appuyer. Autant que nous puissions être tous unis, tant que nous sommes unis, même nos militaires, nos troupes qui sont envoyées au front, ils vont faire un travail pour chasser les FDLR. Ils ne sont pas incapables. Ils ne sont pas incapables de chasser les FDLR. Ils l'ont fait longtemps, c'est de notre bonne volonté que nous avons accepté que les FDLR viennent. Mais pour les faire partir, il faut que nous soyons unis autour d'une table, opposition comme majorité, comme on aime bien les appeler. Ici, c'est le problème de la nation. Ce n'est pas le problème de l'opposition.
Ni de la majorité.
Ni de la majorité.
Voilà, merci.
C'est un problème
de la nation congolaise tout entière. Merci, Gabriel. Voilà. Merci, Gabriel. Il faudrait rappeler d'ailleurs que ceux qui ont été accueillis sur le sol congolais, les FDLR, c'est un groupe qui s'est formé après. C'était les réfugiés autour rwandais qui sont partis après les événements 1994 du Rwanda, que tout le monde connaît. Ils ont été accueillis comme réfugiés, mais au milieu d'eux, bien sûr, le Rwanda et tout le monde, tous les observateurs parlaient de la présence des miliciens. Tiramo qui était accusé d'avoir perpétré les génocides au Rwanda, et le FDLR, c'est un mouvement qui s'est reconstitué après que les réfugiés soient installés sur le sol congolais. Mais vous pensez, Marcel, à partir de Gabriel de Kananga, et tout passe d'abord par l'unité de tous les Congolais, sans question de la majorité ni de l'opposition, regardez dans la même direction. Vous estimez que les forces armées ne sont pas faibles, mais il faudrait qu'ils soient dans un esprit d'unité, dans un dialogue franc et éclair. 081-893-39, c'est le numéro d'appel pour intervenir dans cette émission et nous donner votre point de vue et une stratégie qu'il faudrait définir aujourd'hui pour venir à bout du phénomène FDLR en RDC. Nous en parlons avec vous dans cette émission. Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs. Par internet, ca@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Jean-Claude Tulumbari, vous avez suivi nos auditeurs. Plusieurs stratégies ont été définies par les auditeurs. Ça va, bien sûr, de l'implication de la communauté internationale, de la réforme de l'armée, du dialogue national entre les Congolais, de l'unité, et tout cela, des mécanismes juridiques autant, des choses que les auditeurs pensent qu'ils puissent être faits pour pouvoir arriver, bien sûr, à bout de ce phénomène FDLR. Mais au niveau, parce que c'est la question avec laquelle nous avions commencé, quelle peut être aujourd'hui la démarche de la RDC sur le plan international par rapport au problème FDLR? C'est vrai, bien sûr, que quand il y a eu toutes ces accusations autour de l'agression de la RDC par Rwanda, on a pu déployer tous les mouvements diplomatiques aussi par rapport à ça, mais ce phénomène FDLR qui est à la base de tous ces tiraillements aujourd'hui, que peut faire la RDC au-delà sur le plan international aujourd'hui pour arriver à mettre fin à ces phénomènes et aussi les propositions des auditeurs?
D'abord, je voudrais rappeler que l'obligation de maintenir l'ordre sur un territoire appartient au gouvernement. Mm-hmm. Si nous rentrons dans la logique même de la constitution de cette fiction État, c'est qu'il y a eu un contrat social. Nous avons renoncé à nos avoirs innés, à nos sols, à nos minéraux, à tout. Nous avons confié à un groupe d'individus qu'on appelle gouvernement pour qu'il gère, qu'il exploite et qu'il nous sécurise. C'est de l'obligation donc du gouvernement congolais. On ne peut pas totalement ignorer le fait que le Rwanda utilise des FDLR comme un fonds de marchandage, comme un fonds de commerce pour maintenir sa présence au Congo. Pourquoi nous sommes si incapables de trouver à la face du monde? Ça, c'est la première des choses que nous avons mis, où nous sommes nous-mêmes capables de mettre fin à ce phénomène FDLR. Il faut ôter ce prétexte au Rwanda. Ça, c'est la première chose. Parce qu'autant qu'il y aura des groupes d'individus étrangers appartenant à un autre État sur notre territoire, et que ces individus s'assignent comme objectif de renverser les institutions d'un État souverain, le Rwanda aura toujours raison de dire qu'il doit faire quelque chose pour mettre fin à cette menace. Il faut le reconnaître. Ça, c'est de un. Deuxièmement, nous avons posé un problème, un autre. Si le Congo aujourd'hui doit se débarrasser de FDLR, c'est au prix de l'attaque militaire, en termes militaires. C'est aussi que la survie de FDLR, c'est une question de vie ou de mort pour eux, parce qu'ils savent que s'ils ne sont pas au Congo et qu'ils sont renvoyés au Rwanda, c'est des pendaisons, c'est des emprisonnements et c'est...
Oui, mais à ce niveau-là, il y a quand même le mécanisme DDRR mis en place par depuis la MONUC jusqu'à la MONUSCO. Il y a plusieurs FDLR indépendants qui sont rentrés au Rwanda, mais en fait, l'opinion c'est qu'on n'a pas enregistré beaucoup de plaintes dans le sens où les gens qui sont entrés au pays disent que non, nous avons été condamnés, nous avons souffert, ou soit ils ont dit non volontairement, voilà, nous sommes arrivés au pays, on nous fait souffrir. Il y a ceux qui pensent aussi que ce mécanisme de rapatriement volontaire peut aussi porter des fruits parce que ceux qui sont partis ne sont pas officiellement revenus pour dire que voilà, nous sommes arrivés, on nous a fait souffrir, nous revenons. Ça, c'est aussi un mécanisme défini aussi, le rapatriement volontaire.
Il y a des plaintes, le Rwanda ne rassure pas quant à l'accueil de ses propres ressortissants. Donc, ces gens sont traités différemment. Il y en a qui sont catégoriquement considérés comme génocidaires et qui sont exécutés, qui sont à assassiner comme ça et qu'on a des autres.
C'est trop dire qu'il n'y a pas de procès.
Il faut le dire, lorsqu'on parle des États non démocratiques, c'est comme ça que ça se fait. Alors, d'autre part, l'autre démarche que la RDC devrait entrevoir, c'est ces négociations, des négociations actuelles en direction de la communauté internationale, consisterait plutôt à obtenir de cette communauté internationale que ce prétexte soit éradiqué. On a vu que le pays dépense trop d'argent pour des choses qui ne sont pas urgentes aujourd'hui. Je voudrais à ce niveau dire, on ne peut pas imaginer que le Rwanda soit venu par philanthropie au Congo. Et le Rwanda vide ses écoles pour venir soutenir le Congo, pour venir installer le pouvoir au Congo. Et qu'après, qu'il n'ait rien en contrepartie. C'est illusoire. Ce qu'on utilise aujourd'hui comme argent pour payer les soldats rwandais, nous l'avons vu lorsqu'ils étaient sur notre territoire ici, comment, quel mode de vie ils avaient par rapport à nos militaires. Alors, à ce niveau, on peut se débarrasser des petits fonds que nous utilisons pour faire intervenir les étrangers dans nos affaires. Et entretenir notre propre armée, c'est ça la réforme de l'armée que les intervenants ont utilisé. C'est-à-dire qu'il faut que la mobilisation des fonds soit orientée en direction de la conscientisation des militaires qui partent au front, qui laissent leurs femmes et enfants sans logement, sans soins de santé. Ensuite, à propos du soutien, les auditeurs ont insisté sur la transparence, le soutien de la population au gouvernement dans la lutte contre les FDR. Ça, c'est un autre problème. La communauté internationale a trop toléré la violence au Congo. On a même institué dans nos mentalités que la seule façon d'arriver au pouvoir, c'était la violence. Je crois que derrière les FDR ou devant les FDR, il y a des Congolais qui pensent que c'est un canal pour eux d'ouvrir la porte du paradis, donc la porte de richesse, l'enrichissement sans cause. Mm-hmm. En ce sens, le soutien des populations passe par la transparence. Que le gouvernement soit en train de dire qu'est-ce qu'il investit dans cette lutte contre les FDR, notamment lorsqu'il s'appelle à des troupes étrangères, c'est que le droit international contemporain n'autorise pas clairement lorsqu'il faille qu'un gouvernement fasse appel à des étrangers pour mater les désordres sur son territoire. Donc il faut la transparence pour bénéficier du soutien de la population. À ce niveau-là, je voudrais dire que le gouvernement devrait également obtenir de la communauté internationale l'implication évidente. Il faut que le gouvernement fasse comprendre au monde entier que les FDLR ne sont pas seulement une gangrène sur le territoire congolais. Lorsque les sources d'approvisionnement et financement seront bouchées pour le FDLR qui doit vivre, il n'est pas interdit qu'il tende la main à Al-Qaïda pour survivre. Et ça risque d'être trop tard.
Ça peut constituer aujourd'hui un canal par lequel beaucoup de ramifications peuvent se faire sur les plans même du terrorisme.
Absolument, on ne dit pas trop la différence entre le Moudjahoui au Mali et le FDLR. La différence entre Sabine et le FDLR, il n'y en a pas du tout. C'est tout simplement que les FDLR, s'ils n'ont pas jusqu'ici tendu la main à des mouvements mafieux, à des terroristes, d'ailleurs, ils le font déjà. Ils le font parce que ces richesses ne les exploitent pas au hasard. Mais seulement que c'est parce qu'ils ont encore accès à ces richesses de notre territoire. Ils peuvent débarrasser les populations, incendier des villages entiers pour exploiter des minerais qu'ils n'ont pas encore fait. Mais je crois que lorsque, petit à petit, les taux se seraient autour d'eux et qui seront tenus de survivre, ils vont tendre la main à Al-Qaïda. Et ceux-là ne seront pas les seules victimes parce que c'est de l'Afghanistan au World Trade Center, c'est des milliers de kilomètres, mais c'est quand même passé. Ce qui se passe au Kenya aujourd'hui contre les objectifs tant civils que militaires américains, c'est des révélations. Donc il faudra que la communauté internationale comprenne qu'il est temps de renforcer la seule mission qui est là et qui bénéficie de la crédibilité des Congolais aujourd'hui, c'est la MONUSCO, que la communauté internationale comprenne également qu'il est temps de légitimer davantage, de renforcer la confiance que les Congolais doivent avoir en cette mission et de lui donner suffisamment de moyens pour que une mission véritablement internationale comme la MONUSCO participe à la traque des FDLR. Donc, les solutions que nous proposons quant aux questions des auditeurs, je crois que c'est des questions d'ordre strictement politique, de politique interne. On a parlé de la trahison, c'est là que j'ai fait appel à la transparence.
Donc voilà, nous avons ces quelques messages des auditeurs qui ont posté sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Nous avons Omar et Kitaxangani, Simon qui est comme Atali qui vont garder la ligne. Le temps d'exploiter ces messages comme Gaylor Kachi qui dit ceci, le retrait du militaire rwandais ne peut rien faire. Ce que nous voulons, c'est la paix dans les deux provinces. André Mwepou, il dit ceci, il y a des positions qui ont été occupées par des militaires radio, quoi, des militaires rwandais quand ils sont partis. Nous avons suivi sur Radio Capi, il y a eu des autres groupes d'armées qui sont venus occuper ces positions. Est-ce que dans ces conditions, on peut mettre fin au phénomène FDLR? Anselme Wassungwa Dion qui est à Goma dit ceci, le retrait des troupes rwandais ne nous inquiète pas, moi, plutôt, mon regret à moi, c'est de voir que les militaires du M23 ont pu occuper les positions qui ont été occupées auparavant par ces militaires. Enfin, c'est le point de vue d'Anselme qui est à Goma. Mouindo Luc Kamberi qui est à Beni dit ceci, il faut d'abord signaler que les troupes rwandaises, pour lui, dit qu'ils n'étaient pas venus pour traquer les FDLR, sinon on pouvait nous faire le bilan depuis 2009 jusqu'à ce jour, combien de FDLR ont été traqués, combien ont été arrêtés, combien ont été traduits devant les cours des tribunaux, combien ont accepté volontairement d'être rapatriés. Mais malheureusement, cela n'a pas existé, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu vraiment une mission pour traquer les FDLR. Et Mami Kalonji, qui est ici à Kinshasa, il dit ceci, tout cela ça a été mal conçu, c'est pourquoi nous n'avons pas de solution et tout cela se tourne autour de nos richesses. Et il faudrait que les gens puissent se battre pour une cause juste, sinon il sera difficile de mettre fin à l'insécurité à l'Est. Il y a aussi Patrick Ilunga qui est à Bukavu et dit que si tout cela n'a tout a été planifié, cela ne peut pas nous étonner. On se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de vrais soucis pour qu'on puisse mettre fin à l'insécurité et penser à la population de l'Est. Lucien Migabo de Bukavu dit ceci, l'armée congolaise manque de moyens à elle seule pour traiter les FDLR, c'est la question qu'il se pose. Kamasa Kanyombo John B qui nous écrit des Maputo, il dit ceci, malgré le départ des forces spéciales rwandaises, l'Est du pays restera toujours sous l'insécurité. Les mêmes personnes qui sont parties hier, et ils pourront revenir aussi d'une autre forme et de plusieurs manières. Alors, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est que le gouvernement de Kinshasa puisse se constituer en responsabilité pour traquer les FDLR et mettre complètement fin à ce phénomène. Plusieurs messages que les auditeurs nous ont écrits. Nous avons aussi ceux qui sont en direct sur les antennes pour la dernière partie de cette émission. Omari et Simon, vous êtes à Matadi, Maître Alain, vous êtes à Kindu. Vos points de vue et propositions sur la lutte contre les phénomènes FDLR, au-delà des traques militaires, au-delà de tout ce qui peut être fait sur le terrain, comment entrevoyez-vous l'avenir, au-delà de tous les débats autour de retrait, de qui a fait quoi, qui était ou qui a occupé quoi, mais le problème de fond demeure, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin au phénomène FDLR, c'est vos propositions et points de vue sont les bienvenus dans cette émission.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Omari, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Kisangani, en province orientale. Vous avez suivi les uns et les autres autour de la traque des FDLR, ce qu'il faut faire pour mettre fin à ce phénomène. Quel est votre point de vue?
Ok, en ce qui concerne mon point de vue, j'aimerais juste d'abord décourager ou parler, soutenir un peu négativement ceux qui ont parlé de la restitution d'armée. Vous voyez, tout au départ, notre armée est mal conçue. a commencé depuis l'époque coloniale. Je ne sais pas si vous pouvez me dire, là, notre armée a déjà rapporté à une victoire, à rapporté à la guerre. Partout, on faisait appel, même à l'époque de Mobutu, on faisait toujours appel aux étrangers, même quand il y avait des guerres des Moba, il y avait des Marocains qui sont venus, et même pendant la guerre de l'Afdel, nous avons pu constater que Sangani, il y avait toujours l'arrivée des armées étrangères comme des Serbes et tout comme ça. Alors, moi, je me réveille à l'équipe. Si vous restructurez l'armée, ça va demander du temps. Parce qu'ici, ce n'est pas question de restructurer seulement l'armée, d'avoir seulement une armée dissuasive. Donc, le premier, c'est d'abord de former l'armée, de commencer par le recrutement et former, et pour que nous puissions avoir une armée dissuasive qui fera face à cette situation, ça pourra même nous prendre plus de 5 ans. Alors, à présent, parce que c'est un problème qui nous guette, que nous voulons terminer d'ici tôt, nous devons d'abord juste faire appel, parce que sans cacher le mot, nous sommes considérés au niveau international comme un pays ou un état bébé. Alors, quand vous êtes bébé, vous devez juste recourir à vos parents. Alors, comme à présent, nous sommes reconnus juridiquement comme nous sommes indépendants, mais moi, je dois vous avouer que d'une manière pratique et concrète, nous ne sommes pas indépendants, nous sommes toujours dépendants des Occidentaux. C'est donc pour laquelle ce sont les Occidentaux qui ont voulu accepter que les gens soient là. Et nous avons toujours plaidé aux Occidentaux, à la communauté internationale, bien sûr, pour que ces gens viennent m'attaquer les FDL qui se sont entrés par leur approbation. Alors, c'est ça ma contribution pour ne pas beaucoup parler, c'est ce que j'avais à vous dire.
Merci. Merci. Marie, vous pensez qu'à ce niveau, il sera difficile de parler de la réforme de l'armée parce qu'il faut recruter, il faut former, ça va prendre du temps, mais parce qu'on a besoin d'une urgence pour mettre fin au phénomène FDLR. Le soutien de la communauté internationale est nécessaire. C'est votre point de vue. Vous avez dit, depuis l'histoire du Congo, en commençant par, après les années après l'indépendance, on a vu chaque fois qu'il y a eu une mutinerie, qu'il y a eu guerre, que le pays a tendance toujours à recourir à l'extérieur pour pouvoir être soutenu. Et vous pensez, dans ces conditions, c'est difficile d'avoir une armée capable de pouvoir intervenir. Merci, Omari. Simon, vous êtes en Matadi dans le Bas-Congo. Bonjour.
Je suis Simon Tsilulu, le coordonnateur adjoint de la nouvelle société civile.
Mmh.
En fait, notre regard au niveau de la société civile, parce que c'est le Congo, nous devons tous savoir qu'il n'y a pas une richesse aussi importante que Dieu ait donnée à un peuple, sinon sa terre. Alors, lorsque une partie de la terre, de la RDC, devient un problème à cause de la naïveté pan-germaniste d'une nation, nous devons, je crois, tous nous impliquer de l'Est à l'Ouest, au Nord et Sud, pour que nous trouvions des solutions afin que cette partie du corps du Congo soit en paix pour que nous tous nous le soyons aussi. Nous devons d'abord savoir quelle était la pensée du Rwanda, l'exiguïté du Rwanda, sa petitesse, la densité du Rwanda par rapport au monde. C'est le deuxième pays là. Le plus dense du monde. Il faut voir, avant 1980, il y avait Jimmy Carter qui était président des États-Unis. Il avait même proposé, à cause des discussions Tutsi-Hutu, qu'on puisse prendre une partie de l'Est, la RDC, l'annexer au Rwanda, pour essayer de résoudre ce problème de l'exécuter. Il faut maintenant, pour nous les Congolais, qu'un état des lieux soit fait. C'est-à-dire, la société civile, le Parlement, se mettent ensemble, fasse un état des lieux. Cherchez d'abord à savoir tous les institutions rwandais civiles qui sont avec nous. Parce que nous ne pouvons pas chercher à étudier les stratégies. Ou sinon, réfléchir sur les stratégies avec les Rwandais. Les stratégies contre les Rwandais avec les Rwandais parmi nous. Nous ne saurons pas. Il faut d'abord un état des lieux. Que le Parlement, avec la société civile déterminée, tous ensemble vont coaliser et faire un état des lieux dans ce sens. Et puis aller aussi dans l'armée, parce que c'est depuis longtemps, c'était même, ce n'était pas seulement à l'époque du président Joseph Kabila, c'est depuis longtemps que cette affaire a commencé. Donc le Rwanda étudiait déjà comment avoir cette partie du Congo, c'est depuis longtemps. Et les stratégies actuelles, c'est pas d'aujourd'hui, c'était des pensées qui étaient longtemps. Mais nous,
si nous pouvons nous coaliser ensemble, le Parlement, la société civile, les églises, réqualifier un peu la démarche qu'ils ont commencée.
Allez. Voilà, vous pensez qu'on peut résoudre ces problèmes? On a les deux derniers auditeurs, Simon, parce qu'on n'a pas assez de temps, il faudrait conclure cette émission. Mais vous pensez que tout passe d'abord par un état des lieux, comme vous l'avez dit, la société civile, les parlements, tout le monde ensemble? Vous avez raison, les autres auditeurs qui ont pensé qu'il faut une mise au point, un dialogue entre les Congolais d'une manière globale, tous unis, pour savoir quelle stratégie définir, où est-ce qu'ils sont, à quel niveau faudrait-il intervenir aujourd'hui. C'est votre point de vue de Matadi. Nous avons Maître Alain qui est à Kindou, dans le Maniema. Bonjour, Maître.
Bonjour.
On vous écoute, Maître. En une minute et demie, voilà, en une minute et demie, Maître, quel est votre point de vue pour mettre fin au phénomène FDLR?
Oui, à mon avis, moi, je pense que la police militaire n'est pas une bonne solution.
Mm-hmm.
Moi, je souhaite que c'est ici. Ok?
Oui, allez-y, oui.
Oui. Et le Rwanda cette journée a proposé un dialogue entre Congo et Rwanda. Et dans ce dialogue, il est associé les gouvernements congolais, et y compris les communautés internationales. Puisque, en dehors de ça, c'est pour le dialogue là, on va associer et les Rwandais, Hutu, et les Rwandais Tutsi, et les Congolais, et les communautés internationales, qui sera comme mesure de solution. En dehors de ça, monsieur le président, comment se fait-il que les Hutu doivent se rentrer chez eux, alors dès qu'ils arrivent chez eux, ils sont traqués, tués, c'est comme si vous appelez un chien avec un fouet. Je ne sais pas si ces gens peuvent vouloir les rentrer par force. Alors que là, qu'ils arrivent, dès qu'ils arrivent sur le Rwanda, ils sont tués et ils sont maltraités. C'est pour cette raison que nous sommes toujours victimes des guerres chez nous.
Voilà. Merci, M. Alain. On a que 30 secondes pour accorder aussi la parole à Gabriel. Mais vous avez dit, vous, que les traques, les opérations militaires ne vont pas mettre fin au phénomène. Vous pensez que plutôt le problème doit être du côté du Rwanda, où il faut avoir un dialogue inclusif entre tout le peuple rwandais, sous l'égide de la communauté internationale, mais aussi avec une assistance de la RDC. Mais sinon, s'il n'y a pas cela, ça sera difficile qu'on puisse mettre fin au phénomène. On termine cette émission avec vous, Gabriel. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour. Gabriel, bonjour. Gabriel, vous êtes avec nous, bonjour. Malheureusement, Gabriel est distrait sur sa ligne. Hein. Nous revenons à vous, Monsieur Jean-Claude Chilumbaï. Mais lisons d'abord ce message de Franck de Bastogne en Belgique qui dit ceci. C'est regrettable de voir ce qui se passe et ce qui se trame. La République démocratique du Congo est victime d'une longue, d'une large complicité avec des ramifications indestructibles à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour l'actuel débat en cours, les Congolais avertis doivent d'abord chercher à savoir si leurs voisins et de l'Est souhaitent voir la RDC comme un État fort, ordonné, structuré. Il faut pour ça situer la sphère aussi au niveau des responsabilités internes au niveau de la RDC, sinon on sera du sur place. Le peuple congolais doit rester vigilant et attentif à tous les niveaux. Sinon, la force régionale, quelle que soit n'importe quelle autre force qu'on peut créer pour parvenir traquer le FDR. En RDC, cela ne peut que poursuivre des missions nuisibles et nécessite d'échanger des modus operandi. Voilà, on revient à vous parce qu'on avance que 2 minutes et demie pour conclure cette émission. Monsieur Jean-Claude Chilumbaï, on a écouté les uns les autres. Tout le monde a un seul souci, c'est de voir cette situation mettre ensemble et que les populations civiles puissent retrouver la paix. Ils ont besoin de cultiver, les enfants ont besoin d'aller à l'école, ils ont besoin d'étudier. Il y a toutes ces propositions des auditeurs en grande ligne. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ce phénomène FDLR? Comment mettre fin à cela?
Oui, à les entendre, on peut en déduire que la RDC fait partie de ce que donc elle fait aujourd'hui de faire le sexe. Donc, il a parlé d'un état de B, des états incapables d'assumer leur destin. En ce sens, je voudrais aussi qu'elle fasse preuve de fermeté dans sa manière de traiter ces FDLR. Une question pertinente a été posée. Combien de FDLR ont été présentés? On nous présente chaque jour ici les enfants, les Kuluna qui ont volé les archives et consorts. Mais ces gens qui ont commis des criminalités à grande échelle, leur châtiment devrait servir d'exemple pour dissuader leurs compatriotes qui continuent dans...
C'est-à-dire qu'en niveau, il y a la responsabilité du gouvernement. On voulait faire le bilan, oui.
l'effort qui a été fait depuis toutes ces années, combien ont été arrêtés, combien rapatriés, ouais, et puis présenter ça à la population.
Il faut faire le bilan, mais savoir aussi que la sanction, ce qui enseigne le droit pénal l'explique toujours, la sanction a aussi son rôle dissuasif. Mm-hmm. Il faut montrer comment ceux qui se comportent comme ceci sont punis, ainsi la société a horreur de commettre les mêmes délits. Mm-hmm. À ce niveau où tout est en cachette, on ne sait pas qui finance qui finance quoi. Les FDLR même, on n'a pas trop de précisions sur leur approvisionnement en armes et consorts. Tantôt ça vient du Rwanda, tantôt aussi ça peut venir de notre propre gouvernement qui peut s'en servir pour des objectifs géopolitiques, géostratégiques et consorts. À ce niveau, nous voudrons qu'il y ait beaucoup plus de transparence, que l'on sente que le gouvernement envoie un message fort à la communauté internationale, parce que nous avons déjà un précédent très fâcheux où l'on a refusé d'extrader Bosco Ntaganda, inculpé par la Cour pénale internationale, et tout de suite il serait coquillé, il devenait rebelle et constitue le mouvement qu'on appelle aujourd'hui M23 avec ses milliers de morts et ses victimes qu'il fait chaque jour. Donc ça c'est une responsabilité, c'est une conséquence de notre refus de coopérer sur le plan des droits et de respecter nos engagements sur la scène internationale. Il faut rappeler que nous sommes partis à ce statut de Rome et nous devons nous soumettre désormais à des exigences de la Cour par rapport à ces gens FDLR, M23, tous ceux qui sont inculpés. Nous devons nous montrer fermes quant à notre manière de les traiter. Ça va être un bon message lancé et au Rwanda pour expliquer le prétexte, mais aussi à la communauté internationale pour dire que nous avons besoin maintenant d'en finir avec ces forces négatives à système.
Voilà, merci beaucoup Monsieur Jean-Claude Tshilumbayi. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chef des travaux et doctorant en relations internationales à l'Université de Kinshasa. Merci aux auditeurs, vous avez été très nombreux. Le sujet est très intéressant. Beaucoup de questions aussi dans le débat, mais beaucoup de propositions. Nous vous disons merci pour tout cela. En disant aussi merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. J.R. Lundembo pour la réalisation de la coordination. Kikim Poutou qui s'est occupé et qui s'est battu avec les auditeurs. Jean-Noël Mokondo pour la mise en onde. Kabamba l'a supervisé, Piro vous l'a présenté. Merci à tous.
Allô? 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 Qui ne répond pas?
On se retrouve demain vendredi pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs consacré à la journée internationale de l'alphabétisation célébrée le 8 septembre de chaque année. Nous allons faire le point avec vous sur l'alphabétisation dans votre milieu parce que cela nous préoccupe au plus haut point. Soyez nombreux à vous inscrire à l'adresse a@radiocapi.net. Mais surtout, ne vous déplacez pas parce que le programme continue sur Radio Capi. Au revoir.
Radio.